Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence hebdomadaire. Au sommaire de cette conférence de presse des Nations Unies, les activités de la MONUSCO, les activités de l'équipe pays avec notre collègue Clarisse Moussemé pour le pilier développement et le collègue Yvan Edemou pour le volet humanitaire. Le major Romain Cassan, porte-parole militaire AI, nous donnera quelques éléments d'information sur la situation militaire à partir de Goma. Nous avons aujourd'hui comme invité à cette conférence M. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à RDC, qui ne va pas tarder à nous rejoindre. À l'occasion de la célébration de la journée internationale de lutte anti-mines, ce 4 avril, Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à RDC, a annoncé que le gouvernement congolais s'est fixé pour objectif un Congo libre de mines d'ici 2020. Ce n'est pas un rêve, c'est un devoir, et la MONUSCO et UNMAS sont pleinement engagés auprès du gouvernement dans cette noble tâche. Au cours des 9 derniers mois, les équipes de service de la lutte anti-mine des Nations Unies ont participé à 415 missions et détruit 15 494 restes explosifs de guerre, 33 805 munitions d'armes légères et 632 armes. UNMAS a comptabilisé un total de 2539 victimes de mines ou d'explosifs résiduels de guerre en RDC. En 2014, on a dénombré près de 30 victimes. D'autres informations dans le communiqué de presse qui vous sera distribué à la fin de cette conférence de presse. Information publique, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à RDC, M. Martin Kobler, a eu ce mardi 31 mars une matinée d'échanges libres avec la jeunesse congolaise. Près de 200 représentants des associations de jeunes congolais ont répondu présents à cet exercice, appelé en anglais Fishbowl, où M. Kobler était au milieu d'un cercle entouré par des jeunes pour répondre à leurs préoccupations. Les débats ont tourné autour de plusieurs sujets, dont la question de la politique des Nations Unies sur l'emploi et la formation professionnelle des jeunes à RDC, le développement économique, la sécurité, les droits de l'homme et les droits de l'homme. En organisant cette rencontre avec la jeunesse congolaise, M. Kobler a voulu s'imprégner de leurs préoccupations et aussi connaître leur point de vue concernant le travail de la MONUSCO. Le volet VIH-SIDA, l'unité VIH-SIDA de la MONUSCO et l'ONU-SIDA ont organisé du 25 au 30 mars un atelier de formation de 5 jours sur le VIH-SIDA et sur VIH et SIDA en faveur de 25 pères éducateurs représentants de différents groupes communautaires et organisations qui sont impliqués dans la lutte contre le VIH-SIDA dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Parmi les sujets traités figuraient ceux relatifs aux connaissances de base sur le VIH et le SIDA, aux violences, l'exploitation et abus sexuels, aux conseils et le dépistage volontaire sur le VIH, aux droits et devoirs des personnes vivant avec le VIH, à la lutte contre la stigmatisation et à la discrimination liée au VIH-SIDA. Il convient de rappeler que l'unité VIH et SIDA de la MONUSCO a rejoint dans le cadre de la résolution 1983 du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'atteinte de l'objectif zéro de l'ONU-SIDA, le gouvernement congolais et d'autres acteurs nationaux et internationaux engagés dans la lutte contre le VIH-SIDA pour contribuer à la fin de l'épidémie d'ici 2030. Volet genre à présent. Le bureau de la MONUSCO Kisangani, par le biais de la section genre, a remis officiellement aux autorités de la province orientale, le 25 mars 2015, les clés du bâtiment devant abriter le centre d'apprentissage pour les femmes et filles victimes de violences basées sur le genre du village de Makombo, secteur de Bakumu, Madombe, territoire d'Ubundu, à 27 km de Kisangani. Ce centre comprend 5 bureaux, une salle de réunion, une cafétéria, un petit dépôt, 2 latrines et 2 douches. Il est construit sur l'initiative de l'Association des femmes kipangistes avec l'appui financier de la MONUSCO dans le cadre de projets à impact rapide. Les travaux de construction ont été entrepris en avril 2014 et ont pris fin en février dernier pour un coût total de 35 000 $ américains. Et lié à ceci, Madame Zainab Awabangoura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chargée des questions de violences sexuelles liées au conflit, a effectué un bref séjour en RDC du 29 au 31 mars. Au cours de son séjour, elle a participé à la cérémonie d'installation de la commission chargée de la mise en œuvre du plan d'action pour la lutte contre les violences sexuelles. Volet droits de l'homme, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé en collaboration avec l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, l'ONG Protection internationale et la Société civile du Sud-Kivu, un atelier de réflexion sur l'édit portant protection des défenseurs des droits de l'homme et journalistes au Sud-Kivu avant son examen à la session ordinaire de l'Assemblée provinciale de mars 2015. En République démocratique du Congo, les défenseurs des droits de l'homme font face à plusieurs difficultés pour assurer leur propre sécurité au moment même où ils doivent défendre les droits des populations civiles victimes des violations des droits de l'homme. Ils sont souvent la première cible des présumés auteurs de ces violations dont ils dénoncent les exactions. Une absence de cadre légal protégeant les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes a poussé ces défenseurs des droits de l'homme à rédiger un texte renfermant les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité juridique dans l'exercice de leur travail. Ainsi, dans le souci d'accompagner ces défenseurs des droits de l'homme dans leur lutte, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé une rencontre au cours de laquelle une vingtaine de députés et membres de la société civile du Sud-Kivu ont revu ensemble le texte de l'édit portant protection des défenseurs des droits de l'homme et les journalistes avant sa mise en examen à la session ordinaire de l'Assemblée provinciale. Notons que cet édit qui sera porté devant les députés provinciaux est une première en RDC dans la protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes et qui pourrait être précurseur à une loi qui pourrait être votée au niveau national. Pour rappel, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme a salué dans son rapport du 25 février 2010 les efforts fournis par le Sud-Kivu pour l'adoption de ce cadre juridique assurant la protection des défenseurs des droits de l'homme. Enfin, police MONUSCO, la MONUSCO devient une des composantes des polices des opérations de maintien de la paix des Nations Unies les plus féminisées à travers le monde. En effet, le 28 mars 2015, la barre des 20% de présence féminine au sein de la police MONUSCO a été franchie avec l'arrivée de 10 femmes en provenance du Burkina Faso. Elles ont bénéficié du programme All Female Police Officers Training, initié par le département des opérations de maintien de la paix. Une formation accélérée de base au profit de 138 fonctionnaires de la police nationale congolaise du territoire de Manono a débuté le 30 mars 2015. Elle est le fruit d'un projet à impact rapide initié par la police MONUSCO du secteur Kalemie. Elle s'étendra sur 4 mois et entre dans le cadre des activités de l'îlot de stabilité de Mtiana. Elle participe au renforcement des capacités de la PNC, l'un des principaux axes d'intervention de la composante de la police MONUSCO. La cérémonie de lancement officielle a été présidée par le chef du bureau MONUSCO de Kalemie, accompagné d'une équipe de formateurs de police MONUSCO du secteur de Kalemie. Toujours le 30 mars 2015, la police MONUSCO a animé une séance de renforcement des capacités au profit de la PNC à Dungu sur la protection de l'enfant et des droits de l'homme, et les appelant au nombre de 12 officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire confondus ont été instruits sur les notions relatives aux règles des procédures applicables aux mineurs dans le cadre du bon traitement des dossiers des mineurs en conflit avec la loi et le respect des textes de loi en vigueur. Ils ont aussi été entretenus sur les généralités sur les droits de l'homme, ses sources et le rôle de la PNC dans leur protection. Le samedi 28 mars 2015, la police MONUSCO a participé à une journée de réflexion sur l'autonomisation de la femme à Kisangani. Lors de son intervention, la police MONUSCO a fait comprendre aux participants que l'autonomisation de la femme doit d'abord commencer par la scolarisation massive des filles afin de leur donner les mêmes chances que les hommes, de leur permettre de connaître leurs droits, de prendre part librement à toutes sortes d'activités dans la mesure où une femme libre économiquement peut contribuer à la prise en charge de sa famille. pour plus de détails de toutes ces informations dans le verbatim qui vous sera donné à la fin de cette conférence de presse. À présent, je passe la parole à Madame Clarisse Moussemé pour le volet développement.
Bonjour Terfan, fidèles auditeurs de Radio Okapi, bonjour. Vers une croissance inclusive, une nouvelle vision pour la transformation agricole, tel était le thème autour duquel le forum agro-business s'est tenu, qui a mobilisé plus de 440 personnes venant des 32 pays. Le PNUD RDC était co-organisateur de ce forum et les débats ont porté essentiellement sur la modernisation agricole en Afrique, les différents modèles d'agribusiness et le financement de l'agriculture. Ce forum a aussi été une occasion pour les participants d'analyser les possibilités des partenariats. Près de 1100 rencontres formelles business to business, appelées B2B, ont été organisées pour faciliter un contact entre le secteur public et le privé, mais également entre petits producteurs et grandes firmes. La RDC a présenté les opportunités d'investissement dans les domaines agricoles. Il s'agit de 80 millions d'hectares de terres arables et 80% de la population qui travaille dans le secteur agricole et ses filières dérivées. La RDC pourrait donc devenir, dans les jours à venir, le grenier agricole de la planète. Les travaux du Forum Agribusiness ont débouché sur une déclaration finale qui se résume en 10 recommandations clés devant impulser les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'agro-business pour garantir la sécurité alimentaire de l'Afrique et son émergence. Parmi les 10 recommandations, nous pouvons citer encourager la création de modèles d'affaires pour améliorer l'accès aux équipements, aux infrastructures et améliorer la capacité à transformer et écouler des produits et de favoriser une approche holistique qui intègre l'éducation et la formulation de politiques. Intégrer également l'agroforesterie ainsi que la problématique du foncier et l'aménagement des sols africains pour la pérennité et le respect des exigences environnementale. Au cours de ce forum, le prix incubateur des projets de la Rabobank a été remporté conjointement par deux lauréates, l'une kenyane et l'autre congolaise. La kenyane, elle travaille sur le projet Salem, sur la collecte et la fourniture des haricots dans les cantines scolaires auprès des groupements de femmes agricultrices, de son village à Meru. Et la congolaise Mama Soleil, venue de la province orientale, qui s'emploie à reconvertir les femmes de son milieu à l'exploitation artisanale de l'or à la culture du palmier à huile dans les plantations abandonnées. Ces prix qui s'élèvent à 15 000 $ américains récompensent donc les meilleurs projets soumis à ces forums selon chaque édition. Du côté de la FAO, on nous signale que la RDC s'engage à réduire le perte agricole et donc contribuer à l'amélioration, la sécurité alimentaire et les opportunités de revenus grâce à la réduction des pertes alimentaires dans les chaînes de valeur des céréales et l'objet des travaux de l'atelier organisé à Kinshasa dans le cadre du lancement officiel du projet intégration des initiatives de réduction des pertes alimentaires pour les petits exploitants dans les zones de déficit vivrier. Ces projets ciblent deux chaînes de valeur, il s'agit du riz et des maïs dans les trois zones géographiques, à savoir la ville-province de Kinshasa, les Bas-Congo et les Bandundu. Au terme des trois années, il est attendu de doter les petits exploitants congolais d'un outil méthodologique d'analyse, de suivi des processus post-récolte et de la réduction des pertes, ce qui permettra la formulation politique et des stratégies de réduction des pertes post-récolte qui pourront encourager les investissements des acteurs de ces secteurs publics et privés. Financé par le gouvernement suisse pour un total de 3 millions de dollars, ce projet sera mis en œuvre par les agences des Nations Unies basées à Rome. Il s'agit du PAM, la FAO et FIDA, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, précisément à travers sa direction de production et protection des végétaux. Les détails de ces informations sont contenus dans les communiqués de presse qui vous seront donnés à la fin de la conférence de presse. Merci.
Merci Clarisse. À présent, je retrouve Yvan Oedemo sur le volet humanitaire. Aujourd'hui, quelques éléments d'information sur le choléra, je crois.
Oui, exactement. Bonjour Théophane et chers amis auditeurs de d'Okapi. Comme Théophane l'a dit, nous allons parler du choléra. En 2006, une étude menée par un professeur congolais a identifié 8 villages de l'est de la RDC comme zone source de choléra. Cette enquête notait, entre autres, que la majorité de ces cas étaient situés en bordure des lacs. Ce constat qui a été fait, ça fait maintenant 9 ans, demeure à ce jour une réalité. Le choléra s'est installé comme une priorité sanitaire en RDC. Dans une note d'information que nous avons publiée hier mardi, intitulée « Beaucoup de mines, mais pas assez d'eau potable », nous jetons un regard sur la lutte contre le choléra dans la province du Katanga. De 2012 à 2014, plus de 31 000 cas ont été enregistrés dans la province. 843 personnes en sont mortes durant cette même période. Pour la seule année de 2013, la province à elle seule avait enregistré deux fois plus de cas que toutes les autres provinces de la RDC réunies. Et pour ce qui est de l'année 2015, nous avons les statistiques. Du 1er janvier au 22 mars 2015, ce sont près de 2000 cas, dont 37 décès, qui ont déjà été enregistrés dans la province. C'est en reconnaissance de cette urgence que depuis 2013, la RDC a initié un vaste programme de lutte contre le choléra à travers le plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra qui couvre la période 2013-2017. Ainsi, la lutte contre le choléra est abordée comme une approche multisectorielle à travers laquelle on n'aborde pas seulement, on ne traite pas de la question seulement sur un plan sanitaire, mais aussi sur les domaines de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Cependant, bien avant l'élaboration de ce plan, déjà en 2006, le gouvernement congolais, en collaboration avec UNICEF et d'autres bailleurs, ont initié un vaste programme de développement dénommé « Village et école assainies ». C'est un programme qui vise à améliorer l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement de plus de 11 millions de Congolais d'ici 2017 dans les milieux ruraux et périurbains. Et il a aussi pour objectif d'atteindre 6 000 villages et environ 1200 écoles et permettre ainsi de réduire de 25% les décès dus aux maladies hydriques et au manque d'assainissement. Comme dans les autres provinces du pays, ce programme est évidemment implanté au Katanga, où la qualité de certaines eaux est de plus en plus détériorée à cause des minerais. Depuis de nombreuses années, des partenaires financiers apportent leur soutien à coût de millions de dollars à des programmes et projets pour endiguer la maladie. Entre autres, on peut citer le Fonds commun humanitaire, mécanisme de financement dans lequel des donateurs mutualisent leur financement à travers OCHA. Ce fonds a alloué plus de 10 millions de dollars pour 22 projets pour la seule année, pour 22 projets durant les années 2011 et 2014. Cependant, le choléra reste un problème de sous-développement, nécessitant une approche holistique dans laquelle chaque acteur a un rôle spécifique à jouer, évidemment en commençant par l'État congolais. Le rapport et les détails de ce rapport vous seront remis à la fin de cette conférence de presse.
Merci Yvon Edemou. Nous direction maintenant Goma pour retrouver le major Romain Cassan, porte-parole militaire AI, qui se fera le plaisir de nous faire le point sur la situation sécuritaire. La parole est à vous. Apparemment, nous avons un problème de son avec Goma. Vous nous entendez?
Oui, nous vous entendons.
Allez-y.
Et vous?
Allez-y.
Bonjour à toutes et à tous. L'environnement sécuritaire dans les provinces situées dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo est demeuré calme, mais imprévisible durant la semaine écoulée. La situation sécuritaire est maintenue sous contrôle dans cette partie du pays suite aux patrouilles intensives menées par les troupes de la force de la MONUSCO et celles des forces de défense et de sécurité congolaises. En province orientale, une accalmie relative a été observée pendant la période sous examen dans les districts de Haut et de Bas-Ouélé. La force de la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité congolaises poursuivent leurs activités conjointes dans le cadre des opérations Rudia 2, Chouma-Ngoumi et Bienvenue à la paix, afin de dissuader les activités criminelles, mais également rassurer et protéger les populations civiles. En Ituri, les forces onusiennes et congolaises mènent avec détermination leurs opérations visant à mettre un terme aux activités négatives des éléments du Front de résistance patriotique de l'Ituri, le FRPI. Plusieurs incidents majeurs ont été perpétrés par ces miliciens contre les populations civiles vivant dans les localités situées au sud du territoire d'Irumu durant la semaine écoulée. En effet, dans la nuit du 26 au 27 mars 2015, des éléments du FRPI ont attaqué le village de Katorogo, à 13 km au sud d'Aveba, tuer deux individus à la machette, violer une femme, kidnapper trois autres et piller des biens de valeur. En outre, ils ont lancé dans la nuit du 27 au 28 mars 2015 une attaque contre le camp de déplacés situé dans la région de Moulangui, 3 km à l'ouest de Guéti, torturé 5 personnes, blessé 3 autres à la machette et pillé des biens dans le camp. Les casques bleus de la force de la MONUSCO basée à Bukiringi ont immédiatement été déployés dans les régions affectées afin d'interdire d'autres exactions des éléments du FRPI, rassurer et protéger les populations civiles. Les forces onusiennes et congolaises ont initié des activités militaires intenses visant à mettre un terme à l'activisme des insurgés du FRPI dans cette partie du district d'Ituri. Deux miliciens du FRPI ont ainsi été capturés et plusieurs autres blessés au cours d'opérations menées le 22 mars 2015 par les troupes des FRDC et soutenues par la MONUSCO au village de Mouani, situé à 12 km au sud d'Abeba. À la même date, sept autres miliciens ont été appréhendés par les militaires congolais au cours d'une tentative de vol de bétail dans la région de Bukiringi. Les forces onusiennes et congolaises ont également mené des opérations conjointes de bouclage et de ratissage dans différentes localités situées au sud du territoire d'Irumu, au cours desquelles trois éléments de cette milice ont été ainsi capturés par les FRDC. La situation sécuritaire au Nord Kivu a été marquée par la poursuite des opérations contre les rebelles de l'Alliance des Forces Démocratiques, les ADF, dans la région de Beni, et ceux de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, l'APCLS, dans le territoire de Massissi. 5 individus ont été tués par ces rebelles pendant la période sous examen dans les localités de Kadoou, Malolou et Mboyona, situées dans un rayon de 25 km de Mayongoz. Les forces coalisées MONUSCO-FRDC maintiennent sous leur contrôle l'environnement sécuritaire dans ce territoire par la conduite d'intenses activités militaires, notamment l'opération Umoja 3 bis, impliquant largement la brigade d'intervention, la FAI. Dans le territoire de Massissi, les FRDC ont consolidé leur position dans la région de Nyabondo suite aux opérations menées le 24 mars 2015 contre les éléments de l'APCLS autour des localités de Katiri et de Mahanga, situées à 27 km au nord-ouest de Kichanga. Un combattant de ce groupe armé a été tué et un autre appréhendé. Les forces gouvernementales ont ainsi repris la localité de Matembe, jadis bastion de la milice APCLS. Des efforts sont également fournis pour combattre l'activisme des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda, le FDLR. L'armée gouvernementale poursuit d'ailleurs dans les provinces du Nord et du Sud Kivu ses activités militaires dans le cadre de l'opération Sukola 2, visant à éradiquer les FDLR de ces deux entités. Du 25 mars 2015 à ce jour, 49 éléments en provenance des groupes armés sont rendus à la force onusienne déployée dans la province. Il s'agit de 38 des FDLR, 2 du groupe Mai Mai Kifuafua, 1 de la PCLS et 8 de divers groupes Mai Mai. Au sud Kivu, en dépit de quelques attaques menées par des éléments armés non identifiés contre les positions des FRDC et de la PNC situées à Numbi, le climat sécuritaire demeure sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. La situation sécuritaire au Katanga a été marquée par la pression militaire exercée par l'armée congolaise contre les différents groupes armés actifs dans cette province. Le 23 mars 2015, les forces de défense et de sécurité congolaises ont, au cours d'une opération conjointe menée dans la localité de Mavilibili, à 28 km à l'ouest de Nyunzu, arrêté 14 membres de la milice Luba, dénommée éléments Katangais. A noter également que le 24 mars 2015, le général autoproclamé Nyumba Isha, considéré comme le commandant de la milice pygmée le plus agressif au nord-est du territoire de Manono, a été arrêté par les miliciens Luba des éléments Katangais au cours d'affrontements au village de Kabeke et emmené vers une destination inconnue. L'environnement sécuritaire est demeuré calme dans le secteur 2 au cours de la période sous examen. Enfin, la force de la MONUSCO a mené 1810 patrouilles armées, dont 589 nocturnes, et fourni 54 escortes pendant la période sous examen. Merci.